Bonsoir à tous. On est heureux de se retrouver ensemble dans ce lieu. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean au chapitre 17. C'est la prière sacerdotale. C'est une prière que Jésus va faire avant d'aller à Gethsémané et puis ensuite d'être crucifié. Alors pour certains, vous allez dire que, enfin, pour ceux qui viennent régulièrement, que je vais répéter quelque chose que vous avez déjà entendu, que je vais radoter. Mais au final, ça ne me gêne pas. L'apôtre Paul disait qu'il répétait souvent les mêmes choses parce que pour l'Église, c'était salutaire. Et je pense que même si c'était la 20e fois que vous entendiez ce message, ce qui n'est pas le cas, mais je pense que, enfin quoi que dans cette Église-ci, mais je crois que c'est utile. Donc dans Jean, au chapitre 17 et au verset 3, Jésus va dire « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Et on sait que le mot « connaître », dans ce contexte, c'est pas juste connaître quelqu'un à la va-vite, c'est une notion d'intimité. La vie éternelle, c'est d'avoir une intimité avec Dieu. Et je pense que nous qui venons dans ce lieu, ce qu'on désire, ce n'est pas juste d'avoir un service, d'appliquer des règles, mais ce que l'on cherche, c'est une intimité avec Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Avoir une intimité avec lui. À ses disciples, il dira « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. » Donc au final, Dieu va dire à ses disciples, je ne vous appelle plus des serviteurs, je vous appelle des amis. C'est-à-dire qu'en plus d'un service, il ajoute une notion d'intimité, des amis. Et c'est pareil, vous savez, on peut faire des choses pour un patron. Alors, est-ce que vous aimez votre patron? Non, pourquoi on le sert? Parce qu'on veut les sous. Donc on veut les sous, on sert le patron. Mais on n'a pas forcément, ça peut arriver qu'un patron soit un ami. Mais bon, généralement, des fois on ne le connaît même pas et on le sert. Pourquoi? Parce qu'il y a un intérêt derrière. Mais est-ce que vous avez déjà rendu un service à un ami? Oui. Mais ce n'est pas pour les mêmes raisons. Comprenez? C'est parce qu'il y a une intimité, il y a une profondeur, il y a de l'amour, l'intimité. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. C'est d'avoir une intimité avec lui. Et vous savez que la Bible nous donne les moyens d'être intime de Dieu. Est-ce que Dieu fait des préférences? Est-ce que Dieu a choisi quelqu'un, il va dire, bah lui, ça sera mon ami, et puis pas lui? Non, c'est pas comme ça. Au final, Dieu, nous on cherche, on l'a chanté, on cherche la présence de Dieu. Vous savez que Dieu cherche la nôtre aussi. D'ailleurs, il l'a tellement cherché qu'il est venu pour nous et qu'il est allé à la croix mourir pour nous, parce que ce qu'il désirait, c'est pas des serviteurs, ce qu'il désirait, c'est des amis. C'est d'avoir une intimité avec nous. Et souvent le problème, si notre intimité, elle est limitée avec Dieu, à Dieu n'est pas la faute. Mais c'est à nous. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être frustré, de ne pas être suffisamment intime avec Dieu? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de sentir qu'il y avait quelque chose qui bloquait? C'est qu'on veut aller dans l'intimité avec Dieu, mais des fois il y a quelque chose qui nous retient. On sent qu'il y a... C'est pas mettre des mots dessus, mais ça bloque. On a comme, si vous voulez, certains appellent ça un plafond de verre, quoi. Il y a un niveau qu'on atteint et puis après, pour le dépasser, c'est compliqué. Mais la Bible nous montre comment faire pour être ami de Dieu. La première chose, et ça on l'entend souvent parler, et ce n'est pas de ce point-là dont j'aimerais parler ce soir, c'est que pour être intime avec Dieu, il faut la foi. Dans Jacques, au chapitre 2, verset 23, il nous est dit « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, c'est-à-dire qu'il a eu la foi, il a fait confiance à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. » C'est sûr que la Bible dit aussi dans Hébreux chapitre 11, verset 6, « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Si je veux avoir une intimité avec Dieu, il faut que j'ai la foi. Il faut que je lui fasse confiance. C'est impossible d'avoir une intimité avec quelqu'un sans la confiance. Ça ne peut pas. C'est pas possible. Bah, c'est pareil avec Dieu. Mais il n'y a pas que ça. Et la deuxième chose que j'aimerais qu'on voit, et c'est là-dessus que l'on va s'attarder ce soir, ça se situe dans le psaume 25. On va juste lire ce verset. Le psaume 25, verset 14. où il nous est donné une deuxième clé pour être amis de Dieu. Parce que dans la Bible, on voit que c'est Dieu qui dit « Vous êtes mes amis ». C'est rare qu'on voit des hommes dire « Je suis l'ami de Dieu ». C'est Dieu qui dit qui est son ami. C'est une chose de vouloir être appelé ami de Dieu, c'en est une autre quand Dieu nous le dit. Mais Dieu nous donne les moyens de l'être. Et dans le psaume 25, au verset 14, il est écrit « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. » L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Ça veut dire que l'amitié de Dieu n'est pas réservée seulement ou uniquement parce qu'on a la foi. L'amitié de Dieu nous est donnée aussi, ou en tout cas est construite sous un deuxième pôle dont on parle moins souvent, mais qui est tout autant important que la foi dans la Bible, c'est la crainte de l'Éternel. Et c'est de ça que j'aimerais qu'on puisse s'entretenir ce soir, la crainte de l'Éternel. On peut se poser la question, mais c'est quoi ? C'est quoi la crainte de l'Éternel ? Est-ce que pour être ami de Dieu, il faut que j'aie peur de lui ? Est-ce qu'il faut que je le craigne ? Vous savez qu'un mot peut avoir deux sens. Le mot crainte, ça peut avoir le sens de la peur. Et le mot crainte, ça peut aussi avoir un autre sens qui est celui du respect. La Bible nous dit que l'amour parfait bannit la peur. Et au final, Dieu ne nous demande pas d'avoir peur de lui. Parce que Dieu nous dit qu'il n'est pas venu pour nous condamner, pour nous juger, mais il est venu pour nous sauver. Et on n'a pas à avoir peur de celui qui est mort pour nous et qui nous a prouvé son amour. Vous savez, quand vous vous savez aimer de quelqu'un, mais profondément aimer de quelqu'un, on n'a pas peur de lui. Parce qu'on sait qu'il est bienveillant à notre égard et que tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va dire, ça va être pour notre bien. Donc la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. Mais vous savez, on n'a pas à avoir peur de Dieu, mais on peut quand même être impressionné par ce qu'il a fait. Ce n'est pas la même chose. Craindre Dieu, c'est quoi ? Si on regarde un peu les définitions, la crainte de l'Éternel, c'est avoir un profond respect pour lui. Craindre Dieu, c'est respecter Dieu. Craindre Dieu, c'est marquer son respect devant lui. Craindre Dieu, c'est certaines versions de la Bible traduisent la crainte de l'Éternel par la révérence de l'Éternel. Les versets où il est écrit « Ceux qui craignent l'Éternel », c'est traduit « Ceux qui révèrent l'Éternel ». Il y a une révérence. Vous avez déjà vu quelqu'un faire une révérence ? Il marque le respect. Il marque que l'autre est supérieur, qu'il a du respect pour l'autre. Craindre, c'est avoir de la considération, c'est considérer l'autre. Craindre, c'est honorer quelqu'un, c'est avoir de l'honneur, lui donner de l'honneur. Craindre, c'est avoir de l'estime pour quelqu'un, c'est cela. Au final, le contraire, c'est quoi ? Le contraire, c'est de la désinvolture. Le contraire de la crainte, c'est de l'insolence. Quand je suis insolent avec quelqu'un, je ne le respecte pas. Le contraire de la crainte de Dieu, c'est du manque de respect vis-à-vis de Dieu. Et dans la Bible, on voit plusieurs exemples de respect. Alors par exemple, on va prendre des exemples, les hommes entre eux. Comme ça, c'est plus facile après à projeter avec le Seigneur. Ne le cherchez pas, mais dans le Lévitique, au chapitre 19, verset 32, il est écrit « Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. » Là, il nous est dit d'honorer la personne du vieillard. Et qu'est-ce qu'il était demandé au peuple ? C'était une loi, c'était dans la loi. Donc ce qui définit le bien et le mal. Il nous était dit, donc pour les plus jeunes, de se lever devant les cheveux blancs. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que quand il y avait une personne qui avait les cheveux blancs, qui avait un certain âge, un ancien, d'ailleurs c'est toujours un peu ça dans certaines cultures, notamment orientales, il devait marquer le respect. L'ancien arrivait, je me levais. Vous savez, à l'époque, en France, quand le professeur entrait dans la classe, que faisaient les élèves ? Tous debout. Bon, ça a bien changé. Mais il marquait le respect. Le professeur arrivait, il s'installait, tout le monde s'asseyait. On marquait le respect. On montrait qui était important. Un autre exemple, c'est celui de Job. Si on va dans le livre de Job, donc avant les psaumes, on va au chapitre 1er, verset 3, pardon. Verset 1er, il nous est dit que c'était un homme qui était intègre droit, qui craignait Dieu et se détournait du mal. Au verset 3, il nous est dit qu'il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Il nous est dit, et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. C'est-à-dire que c'était le plus important. C'était celui qui était le plus respectable dans l'Orient à cette période-là. C'était Job. C'était Job. Et à un moment, donc, on connaît l'épreuve qui lui est arrivée. Mais si on va au chapitre 29, il va parler de ce qu'était sa vie avant son épreuve. Ce qui se passait parce qu'il était honorable. Et si on va au chapitre 29, verset 1er, Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit « Oh, que ne puis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait, quand sa lampe brillait sur ma tête et quand sa lumière me guidait dans les ténèbres. » Au final, il se rappelle de ce qui se passait avant son épreuve. Et si on va au verset 8, non, au verset 7, il dit « Si je sortais pour aller à la porte de la ville, et si je me faisais préparer un siège dans la place, les jeunes gens se retiraient à mon approche. » Vous voyez ? Quand il s'approchait, les jeunes, ils laissaient la place. Parce qu'ils s'approchaient, ils l'honoraient. Ils avaient du respect pour lui. Les vieillards se levaient et se tenaient debout. Bon, tout à l'heure, on a vu que c'était aux jeunes de se lever pour les vieillards. Au final, là, c'était les vieillards qui se levaient pour eux. Ils marquaient le respect. Le Job, quand il venait, il était honoré, il était respecté. Il n'y avait pas de l'insolence. Les gens marquaient le respect parce que c'était Job et parce que c'était le plus éminent. Les princes arrêtaient leur discours. Quand il arrivait, tout le monde se taisait. Les gens arrêtaient de parler et mettaient la main sur leur bouche. La voix des chefs se taisait et la langue s'attachait à leur palais, etc. On voit qu'il y avait un respect qui était marqué pour Job. C'est ça, la crainte. Un respect, un respect. Mais dans la Bible aussi, on a des exemples de non-respect, et notamment vis-à-vis de Dieu. Par exemple, on peut aller dans le livre de Malachie. Et dans ce livre, en fait, il y a Dieu qui a un dialogue avec son peuple. Et on voit au final que le peuple, à ce moment-là, ne craignait pas Dieu. Et Dieu va leur faire le reproche. Il va leur faire le reproche. Mais déjà, avec ce qu'on a vu pour Job, on peut se poser la question, mais lorsque Dieu vient, est-ce que je lui laisse la place? Est-ce que quand Dieu parle, est-ce que je me tais pour l'écouter? Est-ce que je mets la main sur ma bouche? Ou est-ce que quand il parle, non, moi je continue. Quand il me parle, j'écoute pas, etc. Vous voyez, à peu près, on commence un peu plus à définir ce que c'est que la crainte de Dieu. Dans le livre de Malachie, au chapitre 1er, au verset 6, Dieu va parler à son peuple. Il va dire « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte que l'on a de moi ? Dit l'Éternel des armées. » À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom. Et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou une infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables, car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous, vous le profanez, en disant « La table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites « Quelle fatigue !» et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Et on s'arrête là. On voit ce procès que Dieu a avec son peuple. On voit un moment que le peuple, qui à l'époque pour servir Dieu faisait un sacrifice, au final amenait dans le temple ce qui avait le moins de valeur. C'est comme si au final il venait donner ce qui avait le moins de valeur à Dieu. Est-ce que vous trouvez que c'est l'honorer? Imaginez, je vous invite à manger chez moi et je vous sers les restes. Vous allez dire quoi? Mais est-ce que c'est pas des fois ce qu'on fait avec Dieu dans notre vie? Plutôt que l'honorer et lui donner la primeur de nos vies, plutôt que lui donner ce qui lui est dû, est-ce que des fois on lui donne pas les restes de nos vies, on lui donne ce qui a le moindre d'importance à nos yeux? Est-ce que c'est respecter Dieu? À un moment, ils disent la table de l'Éternel est souillée. Ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. La table de l'Éternel, ça nous parle du service. Là, il s'adresse aux sacrificateurs, c'est ceux qui servent. Et vous dites, quelle fatigue, et vous le dédaignez. Est-ce que dire que servir Dieu, ça sert à rien? Que servir Dieu, c'est méprisable? Mais quelle fatigue de servir Dieu! Est-ce que c'est honorer Dieu? Ou est-ce que c'est le mépriser? Etc. Et à un moment, Dieu va même dire, mais dans les autres pays, ceux au final avec lesquels il n'a pas fait la même alliance qu'il a fait avec Israël, au final il n'a pas fait d'alliance du tout même, eux ils l'honorent. Ils font des sacrifices alors qu'ils ne sont pas obligés. Et Israël, qui a l'alliance, qui a la connaissance, méprise Dieu. Et au final, lui offre les restes. Et Dieu va dire, mais qui, et elle est forte cette parole, mais qui fermera les portes de ma maison pour que vous n'offriez pas en vain des sacrifices au final qu'il n'agrée pas. La crainte de Dieu. Et on pourrait développer cela et développer cela. La question à se poser, oui, je veux avoir une intimité avec Dieu, mais est-ce que j'ai du respect pour lui? C'est ça la question. Oui, je peux avoir de la foi, je peux lui faire confiance, mais tout en lui faisant confiance, je peux manquer de respect à son égard. C'est quoi les manques de respect? Ben, on peut voir les choses entre nous. Le manque de respect, c'est pas écouter. Dieu vient, il veut me parler, il me parle, mais je fais comme s'il ne m'avait pas parlé. Le manque de respect, c'est Dieu me dit non, ben, je vais faire comme s'il m'avait dit oui. Dieu me dit oui, ben, je vais faire comme s'il ne m'avait pas dit oui. Le manque de respect, c'est quand on coupe la parole. Imaginez, je discute avec quelqu'un et puis à un moment, hop, je coupe la parole. Mais est-ce que des fois, on ne fait pas ça avec Dieu? Des fois, Dieu vient, sa présence s'approche, il veut nous dire quelque chose, et puis nous, bah, on ne trouve rien de mieux que faire autre chose. Aller se divertir. Est-ce que c'est respectueux de ne pas remercier? Imaginez, je vous donne un cadeau, et puis, hop, vous partez, vous ne dites même pas merci. Mais est-ce que des fois, on n'est pas comme ça avec Dieu? Il nous fait la grâce, il nous donne plus que ce qu'on mériterait. D'ailleurs, on ne mérite rien. Il nous donne la santé, il nous donne une famille, il nous donne des enfants, il nous donne une église, il nous donne sa parole, il nous donne l'Esprit Saint, il nous donne une espérance. Pas un merci. Et même pire, on fait que se plaindre. Est-ce que c'est respecter Dieu? Ne pas demander pardon quand on a offensé? Imaginez, il y a Lucas, il y a son enfant. Je fais du mal à son enfant. Est-ce que quand on fait du mal à un frère ou une sœur, est-ce que c'est pas ça qu'on fait? Est-ce qu'on n'offense pas un enfant de Dieu? C'est ce que l'on fait? Eh non, je dirais pas pardon. Peu importe, manque de respect. Vous comprenez? C'est quoi la crainte de Dieu? Et après, on veut être ami. On désire être appelé ami de Dieu. Mais c'est pas possible si on n'a pas de respect. Est-ce que lorsque l'on parle mal de ce qui est important aux yeux de Dieu, comme le faisaient les sacrificateurs, c'est une bonne chose? Imaginez, il y a Lucas, toujours je prends Lucas, je parle mal de son épouse devant lui. Est-ce que c'est un respect? Enfin, vous voyez, mais quand on parle mal de l'Église, est-ce que c'est pas ce que l'on fait? La table de Dieu est méprisable. Quelle fatigue de servir, etc. La crainte de l'Éternel. Et au final, on voit bien que le contraire, c'est bien la désinvolture, l'insolence, le manque de respect. Mais est-ce qu'on n'est pas comme ça, des fois ? Ben moi, je peux dire que moi, le premier, je le suis comme ça, à ma grande honte. Mais ce n'est pas parce que je suis comme ça aujourd'hui que ça veut dire que je peux le rester, je peux changer. Et quand Dieu me montre quelque chose qui ne va pas, je peux me repentir et je peux changer ces choses. Et comme on l'avait entendu tout à l'heure en préambule pour la prière, je peux m'humilier. Et lorsque je réalise que je manque de respect à Dieu, eh ben, m'en repentir. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi craindre Dieu ? Pourquoi le craindre au final ? Pourquoi le respecter ? Là, on a vu ce que c'est que ces manques de respect. Mais pour quelles raisons je devrais le respecter ? La première des raisons, on va le lire ensemble, c'est dans le livre de Jérémie au chapitre 10. Jérémie chapitre 10, on va lire les versets 6 et 7. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel, tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations ? C'est à toi que la crainte est due. Car parmi tous les sages des nations et dans tous les royaumes, nul n'est semblable à toi. Pourquoi craindre Dieu ? Parce qu'il est Dieu. Et rien que pour ça, ça mérite le respect. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Tout à l'heure, on l'a lu dans Malachie, Dieu va dire « Mais je suis un grand roi. » Il est un roi. Il est Seigneur. Il est Créateur de toutes choses. C'est lui qui tient le monde dans sa main. C'est lui qui place les étoiles dans le ciel, qui leur donne à toutes un nom, qui les fait marcher comme elles doivent marcher. C'est lui qui tient nos vies. C'est lui qui a tout créé. C'est lui qui a la puissance, qui a le règne, qui a l'autorité. Il est un grand roi. Et rien que pour ça, uniquement pour ce point-là, il est digne de respect. Imaginez qu'il y ait un grand roi dans un grand pays et qu'on soit présenté devant lui. Comment est-ce qu'on s'approcherait de lui ? Avec des involtures ? Imaginons, on va voir le président. On lui fait « Hey, salut !» Non, pas un président, un roi qui a le droit de nous mettre en prison. « Salut !» Ah non, on marquerait le respect. On attendrait qu'il nous fasse signe pour qu'on parle. On écouterait ce qu'il dirait. On ne lui couperait pas la parole. Puis s'il nous dit de dire quelque chose, on n'irait pas dire le contraire. Vous comprenez ? Mais à combien plus forte raison avec le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant ? Celui qui est Dieu. C'est la première raison. Qui ne te craindrait ? C'est à toi que la crainte est due. Et le respect suprême, il est dû à Dieu. Il est dû à Dieu. Pourquoi le respecter ? Pourquoi le craindre ? On va aller dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er. Première épître de Pierre, au chapitre 1er. Où on va lire à partir du verset 15. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Je relis le verset 17. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Pourquoi est-ce que je dois craindre Dieu ? En tout cas, je peux craindre Dieu parce qu'il ne nous force pas. Pourquoi est-ce que je dois avoir du respect pour lui ? Parce que c'est lui qui me jugera. c'est lui qui me jugera. Il y a un autre texte dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 18. Jésus va dire « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Jésus dit « Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, enfin ceux qui tuent le corps. » De qui il parle ? C'est qui peut tuer le corps ? C'est les hommes. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Qui est-ce qui peut envoyer quelqu'un en enfer ? Alors certains vont dire, c'est le diable. Non, c'est pas le diable. Celui qui jugera, c'est pas le diable. Le diable sera jugé. D'ailleurs, il est déjà jugé. La sentence, elle est déjà tombée. On la trouve dans la Bible. C'est juste qu'elle sera elle est un peu différée pour l'exécution. Mais celui qui jugera les hommes, c'est Dieu et personne d'autre. Et au final, c'est devant lui qu'on aura à rendre compte. Dans l'Apocalypse, au chapitre 14 et au verset 7, c'est un ange qui dira d'une voix forte « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Au final, c'est Dieu qui nous jugera. C'est lui qui décidera de notre avenir et personne d'autre. Pourquoi est-ce que je dois respecter Dieu ? Parce qu'il est Dieu, mais parce que ma destinée, elle est dans ses mains. Et au final, celui qui décidera de mon avenir, c'est lui et personne d'autre. Et vous savez, au final, c'est important de craindre Dieu. Parce que oui, c'est lui qui nous jugera. Mais vous savez tous que pour nous qui avons accepté Jésus à la croix, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est le troisième point pour lequel Dieu est digne de respect. Et on va le lire ensemble, c'est dans Luc au chapitre 23. L'évangile de Luc, chapitre 23, verset 33. Il nous est parlé de Jésus et il nous est dit, Luc chapitre 23 verset 33, « Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait, les magistrats se moquaient, de Jésus disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Et il disait « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Mais justement, il ne se sauvait pas lui-même parce qu'il nous sauvait nous. Et pour que nous, nous soyons sauvés, il fallait qu'il meure. Et c'est ça qu'il leur tenait à la croix. Et il disait « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Et il y avait au-dessus de lui cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs ». L'un des brigands crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu ? Toi qui subis la même condamnation, pour nous c'est justice car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pourquoi respecter Dieu ? Parce que c'est lui qui allait à la croix pour nous. Et ce roi des rois, ce Dieu tout-puissant, celui qui a le jugement entre ses mains, a choisi de mourir lui-même, d'être puni lui-même, pour que nous puissions être sauvés. Et c'est pour cela qu'il est digne de respect. Qui a fait ça pour nous ? Qui d'autre aurait fait ça pour nous ? Quel roi se sacrifierait pour ses serviteurs ? Quel créateur se sacrifierait pour ses créatures ? Il n'y a que Dieu. Dans le psaume 130, Il nous est dit, si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister ? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin que l'on te craigne. Le pardon se trouve auprès de Dieu, afin qu'on le craigne. Et la plus grande des raisons au final, enfin une des raisons pour respecter Dieu, c'est ce qu'il a fait pour nous. Est-ce que je vais être insolent, méprisant avec celui qui a donné sa vie pour moi ? En tout cas, un des brigands l'a fait. La question c'est, et nous ? Lequel voulons-nous être ? Voulons-nous être le brigand qui se moque, qui est insolent, qui manque de respect ? Ou ne voulons-nous pas être le brigand qui dira « Mais ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ?» Donc en résumé, il est digne de respect parce qu'il est Dieu. Il est digne de respect parce que c'est lui qui a notre destin entre ses mains. Il est digne de respect parce qu'il est mort pour nous. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car c'est le seul nom qui nous a été donné par lequel on puisse être sauvé. Et suite à ça, on peut avoir cette amitié. Je le relis, le psaume qu'on a lu tout à l'heure, le verset en tout cas, du psaume 25, verset 14, qui dit que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Pour ceux qui le craignent. Et on voit au final que la crainte de l'Éternel, elle apporte beaucoup de choses dans une vie. Il nous est dit, par exemple, dans le psaume 145, verset 19, « Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. » Alors j'aurais pu mettre ça comme une raison. Pourquoi craindre Dieu ? Parce que quand on le craint, il accomplit nos désirs. Mais ça, ce n'est pas une raison. Ça, c'est comme avoir un salaire, vous voyez ? Non, ça, c'est une conséquence. « Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. » Psaume 145, verset 19. Psaume 25, verset 12. « Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. » Besoin d'une direction ? Mais est-ce que je respecte Dieu aussi ? Lorsque l'on craint Dieu, on a une direction. Psaume 34, verset 8. « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. » Protection. Quand on craint Dieu, il nous protège. Psaume 34, verset 10. « Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » La provision. Il pourvoit. Psaume 103, verset 13. « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » La compassion. Psaume 103, verset 17. « Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. » La bonté, la bénédiction, même sur les enfants. Psaume 128, verset 1er, et en fait là c'est pour ceux qui prennent des notes, tout le psaume 128 parle de l'homme qui craint Dieu. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, le bonheur, la joie. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Proverbe 15, verset 33, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Est-ce que des fois, je n'ai pas besoin d'un peu de sagesse ? Eh bien, est-ce que je respecte Dieu ? Parce que quand Dieu dit que ça c'est bien et que ça c'est mal, si à un moment, moi, j'en fais qu'à ma tête et je manque de respect, forcément, je ne vais pas être très sage dans mes comportements. Proverbe 31 qui nous parle de la femme vertueuse. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel et celle qui sera louée. Quand on craint Dieu, ça amène l'honneur. L'honneur, comme Job. Job, il craignait Dieu, il était craint, mais dans le sens respecté, bien sûr. Et enfin, pour finir, dans le psaume 86, le psalmiste, il va dire au verset 11, « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » Vous entendez cette prière ? Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je pense que c'est une prière, si on la fait, elle va être exaucée. Non ? Dieu veut une amitié avec nous. Il nous montre que pour avoir cette intimité, nous avons besoin d'avoir aussi un profond respect pour sa présence. Alors si on le demande, vous pensez bien que Dieu va l'exaucer. C'est une prière que chacun peut faire maintenant, hein. Attendez pas chez vous ce soir, faites-la dans votre cœur. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom, à la crainte de ton nom. Et on va lire, pour finir, on retourne dans le livre de Malachie. Ce fameux livre qui parle beaucoup de respect vis-à-vis de Dieu. Et au chapitre 3, verset 16, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Regardez, l'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Voilà ce que va dire Dieu. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme qui a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Dieu dit, ils seront à moi, ils m'appartiendront. Mais il ne dit pas ça à n'importe qui. Il dit cela de ceux qui ont du respect devant lui. Alors je pose la question, voulons-nous du respect ou choisissons-nous le respect de Dieu? Parce que je crois que c'est souvent ça qui bloque. La foi, elle grandit. Mais est-ce que notre respect grandit? Est-ce que je travaille à cette dimension de ma vie avec Dieu, de mon intimité avec Dieu? En tout cas, je crois que c'est ce que Dieu veut, c'est que nous puissions le respecter parce qu'il en est digne. Et je crois que si on s'y applique, à lui faire confiance, et à avoir un profond respect pour lui, je crois vraiment qu'on ira dans une intimité plus profonde avec lui. Amen. Merci Seigneur pour cette parole. Merci pour ta grâce. Et Seigneur, pardon. Pardon pour bien souvent nos manques de respect. Pardon Seigneur pour toutes les fois où nous avons méprisé ton nom. Nous ne t'avons pas écouté, ou Seigneur, nous n'avons pas été là lorsque tu nous appelais dans le lieu secret pour passer un temps avec nous. Pardon pour toutes les fois où nous avons méprisé ce que toi tu aimes. Pardon pour toutes les fois où nous avons manqué de reconnaissance pour tout ce que tu nous as donné. Pardon Seigneur, parce que c'est te faire un affront. Mais merci Seigneur parce que tu pardonnes. Et nous croyons en ton pardon à la croix, Seigneur. Merci. Et ce que nous voulons te demander, c'est de disposer nos cœurs à la crainte de ton nom. Seigneur, interviens par ta grâce afin que nous puissions avoir ce saint respect pour toi. C'est ce que nous désirons, Seigneur. C'est honorer. C'est honorer ton nom, Seigneur. Et c'est marquer notre respect pour toi. C'est ce que nous voulons, Seigneur, c'est ce que nous désirons, c'est pour cela que nous te le prions. Et Seigneur, tu dis que si on demande quelque chose selon ta volonté, tu nous entends, Seigneur, et tu nous donnes la chose que nous t'avons demandée avant même que nos yeux le voient. Alors Seigneur, nous voulons aussi te dire merci pour l'enseignement que tu nous apporteras dans les jours à venir pour nous enseigner la crainte de ton nom, Seigneur, parce que c'est ce que nous désirons. Nous désirons, Seigneur, que tu marches au milieu de nous. Et Seigneur, nous ne voulons pas, par nos attitudes, empêcher ta présence de descendre au milieu de nous. Mais nous voulons être de plus en plus respectueux, Seigneur. Et que le roi de gloire fasse son entrée au milieu de nous et manifeste sa grâce. C'est ce que nous te demandons. Comme on l'a entendu tout à l'heure, Seigneur, à toi n'est pas la faute. mais à nous la confusion, Seigneur. Mais merci parce que ta volonté, c'est de nous aider, Seigneur, à ce que nous te préparions le chemin et que tu puisses, Seigneur, agir au milieu de nous comme tu le faisais du temps des apôtres, Seigneur. C'est ce que nous te demandons dans le nom de Jésus et nous te disons merci pour cela, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Amen.